Je vous parlais aujourd'hui d'un autre sujet qui m'occupe depuis 5 ans. C'est une réflexion que j'appelle Homo Bioceris sur l'humanité et d'essayer de voir si on pourrait changer l'histoire que l'humanité se raconte sur elle-même afin d'évoluer vers justement une culture de la paix et une culture de l'amour. Et vous comprendrez à la fin de cette présentation qu'est-ce que vient faire le Petit Prince sur cette planète. En 2011, il y a un spécialiste du langage et aussi des sciences cognitives, Steven Pinker, qui a publié un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été traduit en 2017 en France par « La part d'ange en nous » et qui soutenait l'idée que la violence était en déclin dans le monde entier. Donc il s'appuyait sur un certain nombre de statistiques sur l'évolution des morts violents, notamment par les guerres, et il montrait par des statistiques que les morts avaient tendance à chuter depuis le Moyen-Âge, avec quand même une petite résurgence au XXe siècle, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et il expliquait ça par un certain nombre de phénomènes, notamment le développement du commerce, le développement de l'éducation, le développement de l'empathie, qui devenait quelque chose d'assez généraliste, et aussi d'un certain nombre de lois qui posaient des concepts sur la protection des droits humains, la protection des enfants, la protection des femmes. Mais ce livre ne correspondait pas à ce que les gens ressentaient, et en fait, dans ce livre, il avait choisi des statistiques pour mesurer la violence, mais il n'a pas mesuré certains types de violences, des violences qui sont structurelles et qu'on retrouve dans la société, par exemple sur les inégalités de salaire, sur le travail forcé, sur l'accès à la santé, l'éducation, l'eau, aussi des violences plus psychologiques et émotionnelles, des violences contre les genres et des violences économiques, et donc il ne mesurait pas tout ça. Et si on regarde aujourd'hui les statistiques, en fait, même sur la violence physique, les statistiques ont tendance à remonter. Là, vous avez une courbe sur l'évolution des actes violents aux États-Unis et sur les homicides. Et on voit que depuis 2015, ça remonte énormément. Et on peut se demander qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Et il y a un certain nombre de personnes qui disent que une des raisons pour lesquelles la violence augmente, c'est que l'humanité a saturé la planète, qu'on se heurte aux limites planétaires et que le fait que l'humanité passe aux limites, ça avait créé quelque chose qui est très criminogène et qui devrait augmenter la violence. Et cette violence, elle n'est pas liée que à aux conditions écologiques sur la Terre. Elle est aussi liée à d'autres phénomènes, d'autres tensions qui pourraient nous amener à une sorte d'annihilation de l'humanité. Il y a un institut qui publie depuis 1945 un horaire s'appelle la Atom Clock et qui dit à combien de temps on est d'un péril nucléaire global. Et en fait, ils se sont rendus compte que depuis, alors au moment de la guerre froide ou du dégel de la guerre froide, cet indicateur a baissé. Et aujourd'hui, en 2025, on n'a jamais été aussi proche d'une destruction totale par les guerres nucléaires, mais aussi par les dérives climatiques, mais aussi par des choses technologiques. Alors, tout ça, c'est pas très réjouissant, mais vous allez voir que on va passer à autre chose. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui vous disent que le futur, il va être nécessairement être une grande guerre des uns contre les autres et contre la nature. Et moi, évidemment, c'est pas quelque chose qui me plaît, et je suis allé chercher une autre histoire que l'humanité pourrait raconter, qui soit beaucoup plus belle que celle-ci. Le point de départ de cette réflexion, c'est vraiment une phrase de Camus qui, depuis le lycée, m'obsède, et disait quand il a reçu le prix Nobel de littérature, « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être encore plus grande, on le voit pas, mais il s'agit d'empêcher que le monde se défasse. » Et ce mot « empêcher le monde se défasse », je me disais, Il y a certainement aujourd'hui des humains. Les humains, ils se considèrent comme isolés les uns des autres. Et la question, c'est comment les relier les uns les autres par une espèce de matrice, de façon à ce que les sociétés humaines ne se déchirent pas et que aussi nos liens avec la Terre ne se déchirent pas. Et plus généralement, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans la transition écologique, comment ces liens pourraient accélérer la transition écologique. Donc c'est cette structure, moi j'étais chercheur en mathématiques, que j'ai essayé de rechercher pour pouvoir proposer une autre histoire de l'humanité. En fait, cette structure, elle est à l'œuvre depuis la création de l'univers, depuis le Big Bang, et Bergson appelait ça l'élan vital, la force de l'évolution, et cette force de l'évolution, elle a structuré le réel, et c'est ça qui explique qu'on est passé d'un amas de particules à un amphithéâtre de la Sorbonne, où on est en train de réfléchir sur le futur de l'humanité, et tout ça, ça s'est structuré de manière assez magique, et ces particules élémentaires, au départ, elles ont été projetées par cette énergie du Big Bang, elles se sont rassemblées les unes les autres pour créer des structures avec une énergie d'association qu'on appelle la gravité, pour former des énormes structures, là vous avez la Voie lactée, et puis dans cette Voie lactée où il y a des centaines de milliards d'étoiles, nous on vit autour de cette petite étoile là, qui est notre générateur de fusion nucléaire et qui a permis d'amener en fait la vie sur Terre. Au départ, nous on était une planète tellurique très, on va dire, minérale, et au moment où elle s'est refroidie, il y a de l'eau liquide qui est apparue, une molécule magique qui a enregistré un certain nombre de relations chimiques pour créer des êtres qui puissent se reproduire et évoluer, donc l'ADN. Et cette force d'organisation qui amène le monde à aller vers plus de complexité, plus de conscience et plus de beauté, elle est aussi à l'œuvre dans le vivant. Elle a permis des sauts en complexité majeurs. Il y a eu un premier saut en complexité quand on est passé de cellules à des êtres multicellulaires. Aujourd'hui, c'est un mystère pour la science de savoir comment des cellules peuvent créer un autre être qui a une conscience d'ordre supérieur par rapport aux cellules qui le composent. Et vous en êtes tous la preuve, parce que quand on se réveille le matin, on a l'impression d'être soi, mais vous êtes un assemblage de 30 000 milliards de cellules qui coopèrent pour être vous. Donc je vous demande d'applaudir vos cellules qui, de manière magique, œuvrent jour et nuit pour que vous puissiez avoir cette aventure de la vie. Et cette énergie d'association, elle a été à l'œuvre une deuxième fois, et vous venez de le voir dans ces images de One Home, pour créer un gigantesque être vivant qu'on appelle la biosphère, qu'on peut surnommer Gaïa aussi, qui prend soin de tous les autres êtres vivants. Donc, la même manière que votre cellule compose votre corps, et que votre corps prend soin de vos cellules, tous les espèces, les 9 millions d'espèces, interagissent les unes avec les autres, constituent un gigantesque être qui s'appelle Gaïa, et qui prend soin de nous. Par exemple, par l'atmosphère, elle empêche des météorites d'arriver sur nous, par la couche d'ozone, elle empêche les rayons cosmiques d'arriver, donc il y a des propriétés globales, elle distribue l'eau, elle distribue les nutriments, elle stabilise la température, on n'en a même pas conscience, mais on vit à l'intérieur d'une grande créature, et en fait le projet One Home que je vous ai montré, c'est un projet en fait comme une sorte de macroscope qui permet de voir l'être auquel on appartient. Et je voulais remercier aussi Satish Kumar, c'est lui qui a fait les paroles sur cette musique, c'est aussi un acteur de la paix extraordinaire et qui sera à Paris dans une quinzaine de jours. En regardant en fait cette force d'évolution, et je réfléchissais à cette humanité où tout le monde nous prévoit qu'on va s'entre-déchirer, et je me disais, en fait, on est peut-être à un stade similaire dans l'évolution humaine, où le prochain stade de l'évolution humaine, c'est de passer de 8 milliards d'humains séparés et qui ont des réactions violentes les uns avec les autres, à évoluer vers un collectif planétaire, c'est-à-dire un unique organisme qui serait l'humanité. Et l'humanité en tant que telle, d'un point de vue biologique, c'est pas quelque chose qui existe. Aujourd'hui, on parle vaguement d'humanité, mais elle est encore divisée en nations, et au sein de ces nations, on est divisé en sous-groupes. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, l'humanité, d'un point de vue biologique? Alors, si vous prenez l'humanité, c'est 8 milliards d'humains. Ces 8 milliards d'humains, ils pèsent ensemble 287 millions de tonnes. Alors moi, j'ai du mal à voir ce que c'est cette créature qu'on formerait tous ensemble. Donc je me suis dit, si on mettait tous les humains dans un mixeur et qu'on faisait une grosse boulette de viande, quelle serait la taille de cette boulette? Est-ce que vous avez une idée de la taille que ferait l'humanité? Est-ce que c'est une boulette de 30 km, 10 km? En fait, c'est tout petit. J'ai entendu 1 km, c'est ça. En fait, l'humanité, elle tiendrait dans Central Park. On la verrait même pas depuis l'espace. Et en fait, c'est une boulette de viande qui fait 850 mètres de large. C'est un peu gore, je reconnais, quoi. Mais c'est pas moi qui ai fait l'image. Il y a toujours quelqu'un qui pense aux choses auxquelles on a fait. Et cette boulette de viande, on pourrait se dire, elle est insignifiante parce que c'est tellement petit, c'est pas ça qui va provoquer des règlements climatiques. Mais on dérègle la Terre parce qu'on produit des objets qui sont pas biodégradables. Et c'est comme si chaque année, on faisait croître une boule de déchets. Et cette boule, aujourd'hui, la revue Nature a montré que la somme des artefacts humains non biodégradables avait atteint, il y a 2 ans, le même poids que la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants, toutes les bactéries, les forêts, les baleines, les fourmis, les humains, tous ensemble, ça avait le même poids.
Donc ça n'a pas le même poids que la Terre, mais en fait on a un phénomène humain avec nos déjections, en fait en tout cas ce qui sort de notre économie, du même ordre que la Terre, et c'est pour ça que c'est impératif de résoudre cette crise, sinon on va à la fois mourir nous et tuer également cet organisme Gaïa qui est aujourd'hui très malade. Aujourd'hui, cette humanité, elle n'est pas juste destructrice. Il y a un certain nombre de gens sur Terre, c'est difficile de savoir si c'est 1%, 5%, 10%, mais qui œuvrent déjà une métamorphose et qui œuvrent déjà à autre chose. Donc moi, j'appelle ça des petites cellules bleues. Donc vous avez au sein de ce corps, de ce grand Homo sapiens, des petites cellules qui rêvent d'autre chose. Et donc la question, c'est de savoir quelle est la forme que voudrait prendre cette humanité. Et j'aime bien cette photo des murmurations, vous savez, c'est ces vols des tourneaux parfois qu'on peut voir dans le ciel. Et il y a un photographe qui a pris une photo incroyable où à un moment donné, ce vol des tourneaux ressemblait à un grand oiseau. Et aujourd'hui, on a un peu ça, nous les humains, on est 8 milliards d'humains qui n'ont pas pris conscience qu'on était une humanité globale. On n'a pas encore de forme, donc quelle serait la forme qui nous donnerait envie d'aller et une forme qui permettrait à l'ensemble de créer une espèce de champ qui serait propice à développer justement une culture de la paix et de la non-violence. Et en recherchant une forme qui puisse être laïque, qui puisse être internationale, je tombais par hasard en regardant un livre que j'ai toujours sur mon livre, sur la couverture du Petit Prince. Et quand vous regardez sur la couverture du Petit Prince, moi il y a quelque chose qui me choque depuis que je suis tout petit, c'est pourquoi il a dessiné son personnage aussi grand sur sa planète. Et par exemple en mathématiques, vous pouvez montrer que vous ne pouvez pas avoir d'arbre de plus de 134 mètres. Donc en fait cette photo elle n'est pas possible, et là le Petit Prince il a presque le rayon de la Terre. Et en regardant ça, je me suis dit mais peut-être que Antoine de Saint-Exupéry, son Petit Prince n'est pas un individu, mais un collectif, et c'est peut-être l'humanité de sa planète, c'est-à-dire qu'il est fait de plein de petites cellules. En fait, si vous lisez Le Petit Prince avec cet angle, vous vous rendez compte que, déjà, ça répond à une question moi, que je me pose depuis que je suis enfant, c'est pourquoi il n'a pas de parents, le Petit Prince. Et en fait, là, un collectif, nous, on n'a pas besoin d'avoir un parent sur l'humanité, c'est des cellules qui s'assemblent, et donc Le Petit Prince pourrait être un collectif planétaire. Et quand vous regardez sa condition, les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, si vous étiez la conscience de l'humanité, de ces 8 milliards d'humains, de la même manière que vous êtes à la tête de ces 30 milliards de cellules, en fait, vous demanderiez qu'est-ce qu'il y a autour de vous, quelles sont toutes ces choses, et puis surtout, vous demanderiez comment vous faites pour prendre soin de la planète à laquelle vous êtes, prendre soin de vos cellules. Et donc, le Petit Prince, il nous donne des clés. Et une des clés, c'est de passer tous les matins une heure à prendre soin de notre planète. Et si on faisait déjà ça chacun avant d'aller travailler, en fait, on vivrait dans un monde qui serait absolument magnifique. Il nous dit de faire attention aussi aux phénomènes exponentiels qu'il appelle les baobabs. Et puis, il nous donne toute une autre série. En tout cas, lui, il arrive à vivre en harmonie sur sa petite planète. Et puis, à un moment, ça ne lui suffit pas. Il décide de partir en voyage. Et avant d'arriver sur Terre, il visite 6 planètes, et sur chacune de ces 6 planètes, si vous regardez le Petit Prince avec cet œil-là, il y a toujours sur chaque planète un unique humain qui est un collectif planétaire malade. La même, et ce sont des maladies de l'humanité. Moi, j'avais jamais compris pourquoi il avait choisi ces archétypes, mais par exemple, le premier, le roi, ce qu'il lui reproche le Petit Prince, c'est que le roi considère que la planète lui appartient alors qu'il appartient à la planète. La deuxième, c'est le vaniteux. On est vaniteux. On se place au-dessus des autres espèces. On a besoin d'être flattés, nous les humains. Et on a donc les mêmes caractéristiques que celui-là. On est comme le buveur aussi. On a des addictions. On n'arrive pas à sortir de ces addictions. Et le Petit Prince, il dit au buveur, pourquoi tu bois? Parce que je suis triste. Pourquoi tu es triste? Parce que je bois. Et nous, on est pris dans nos addictions au pétrole, au plastique, de la même manière. Et il faudrait qu'on sorte de ces structures mentales. On est aussi comme le businessman. Aujourd'hui, collectivement, l'humanité est gérée par les directeurs financiers de toutes les grandes entreprises du monde. Et ils n'ont pas mis beaucoup d'argent de côté cette année pour résoudre la crise des limites planétaires et créer la paix dans le monde. Et donc, on est plongé dans les chiffres et dans cette espèce d'hallucination. On est aussi comme l'allumeur de réverbère, c'est-à-dire qu'en 24 heures, tous les humains se sont couchés et se réveillent. Et donc, on fait cette espèce de mouvement de balancier, de va-et-vient tous les jours sur la planète. Mais l'humanité n'a jamais dit quel est son projet. Donc on est un peu dans l'absurde, et cet absurde, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas énoncé quels sont les projets de l'humanité, à un niveau personnel, on a aussi une quête de sens individuelle, puisque d'un point de vue collectif, on n'a pas énoncé à quoi sert l'humanité. Et enfin, le dernier qui visite, c'est le géographe, et lui, il lui reproche de ne pas regarder la Terre avec ses yeux, mais de la regarder à travers ses livres, et nous, c'est ce qu'on fait, on ne regarde plus le monde, on le regarde à travers nos téléphones portables. Et quand il arrive sur Terre, c'est comme l'aviateur est en train de réparer son avion, puis d'un coup, le Petit Prince débarque, comme dans un rêve. ils ont une certaine discussion et puis à la fin, il repart un peu comme dans un rêve. On ne sait pas s'il est mort ou pas. Mais cette discussion, c'est un peu une discussion entre une cellule et une conscience planétaire. Si vous étiez une cellule de votre foi et que vous parliez avec vous-même, en fait, ça serait ça serait pas une discussion du même ordre. Ça ressemblerait à un rêve. Et dans ce rêve, en fait, le petit prince lui donne un certain nombre de clés pour arriver à vivre en harmonie sur la Terre. Et la plus importante, en fait, elle est dans cette fameuse phrase. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et qu'est-ce qu'elle dit cette phrase? C'est qu'en fait, les yeux, ça nous permet pas de percevoir correctement le monde, parce que les yeux permettent de voir les choses, mais elles ne permettent pas de voir les relations entre les choses. Et les relations entre les choses, elles ne peuvent être que ressenties. Et si on veut avoir une culture de la paix et empêcher que le monde se défasse, comme le disait Camus, il faut pouvoir nourrir les liens entre nous et les autres êtres humains, nous et le monde, et c'est ce dont on parlera tout autour de cette journée, et même le lien à soi-même, et ça, il n'y a que le cœur qui peut le ressentir, et le secret, en fait, pour arriver en harmonie, c'est ce cœur. Je cherchais à savoir, donc je me disais, l'humanité pourrait avoir comme but de devenir une sorte de petit prince qui habiterait avec humilité la planète, c'est-à-dire pas en grand roi, mais en petit prince. Et il y a toujours une question, quand on pose le petit prince comme ça sur sa planète, peut-être une position de domination, anthropocentrée, chercher une meilleure métaphore. Et en fait, l'humanité pourrait considérer qu'elle est de la même manière que les arbres, de la même manière que le phytoplancton, de la même manière que les bactéries ou les baleines, qu'elle joue un rôle vis-à-vis de la Terre et qu'on soit un organe de la Terre. Et donc, nous, humanité, on est... cette humanité future, petit prince, moi, je l'appelle Homo Bioceris, qui est fait de ces liens. Nous-mêmes, en tant qu'individus, ça change notre rapport au monde, parce que je suis moi, je fais partie d'un grand collectif qui est l'humanité, et ce collectif fait partie d'un corps qui est plus grand, qui est le corps de la biosphère. Et si vous voulez que l'humanité soit un organe, il faut définir ses fonctions. Et par exemple, le foie, il a des fonctions de désintoxication, de synthèse de vitamines, de stockage de graisse. Donc ça serait quoi les fonctions de l'humanité vis-à-vis de la biosphère? Et en fait, j'en ai trouvé plusieurs. Et si l'humanité respectait ses fonctions, automatiquement, on s'harmoniserait entre les humains et avec la Terre. Par exemple, la première fonction qu'on pourrait avoir, c'est de prendre soin de la Terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le font, mais si c'était généralisé, on pourrait être des jardiniers un peu punk, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire des jardins à la Versailles, mais de prendre soin de la Terre, de prendre soin aussi de toutes les créatures sur Terre, évidemment des êtres humains, mais aussi des non-humains, les petites chouettes, les petits asticots, etc. Et on pourrait être des grands infirmiers de la Terre. On pourrait aussi, ben ça on l'a vu avec le projet One Home, être une forme de conscience planétaire et de permettre justement par rapport à ces images spatiales, de permettre à Gaïa de se regarder pour la première fois. Ce projet, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où la Terre se voit elle-même tournée sous toutes les coutures. Il y avait avant ça une seule photo en 1972 où la Terre se voyait en entier, mais c'est un projet One Home qui est avec un satellite qui est à 1 500 000 km, où la Terre se regarde. Et si vous imaginez, c'est un peu comme si des cellules de votre foie avaient fait une expédition, étaient montées au plafond pour regarder à qui elles appartiennent. C'est ça qu'on a fait et ça permet de changer le récit de la conquête spatiale qui est parfois très viril, très technologique et néfaste. Mais aujourd'hui, si vous le regardez à l'échelle de Gaïa, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque la Terre s'était jamais vue en 4,5 milliards d'années. On peut aussi contempler, on peut aussi faire de la musique, accroître la beauté du monde. On peut aimer, on peut explorer, c'est-à-dire que la Terre a besoin de se connaître elle-même. On peut aussi explorer au-delà des sens avec des substances psychédéliques et visiter d'autres mondes. On peut aussi utiliser notre cognition, faire peut-être même des alliances avec les intelligences artificielles, de façon à résorber cette pollution que vous avez vue au départ et à répondre aux grandes questions, aux grands mystères que ce petit prince posé sur la Terre se pose, c'est-à-dire c'est quoi l'univers, c'est quoi le réel, et à chaque fois qu'on construit un satellite, enfin un télescope spatial plus puissant, par exemple quand on passe de Hubble à James Webb, c'est comme si on changeait les lunettes de Gaïa pour qu'elles permettent de mieux comprendre et répondre à la question qu'est-ce qu'est l'univers et y a-t-il de la vie ailleurs? Et cette question, pour une petite planète vivante, c'est une vraie question, savoir si elle est la seule cellule vivante de tout l'univers ou si tout l'univers est vivant et en train de croître aussi vers la conscience. Une fois qu'on a éludé ces questions, la question d'Homo Bioceris change complètement aussi notre rapport à l'autre, c'est-à-dire, comme je disais, nous sommes chacun Bioceris. Nous sommes Gaïa, puisqu'en fait, on est des cellules d'un organe et de la Terre, et nous sommes les uns les autres. C'est-à-dire que dans le monde d'Homo Bioceris, l'autre, c'est moi avec une autre vie. Et ça, ça change complètement le rapport qu'on a là. Il y a des gens qui disaient que pour pouvoir avoir une culture de la paix, il fallait aller à la fraternité, c'est-à-dire se considérer tous comme des frères. Ici, c'est même différent. On n'est pas juste une famille, on forme un organe ensemble qui doit répondre à des fonctions. Donc c'est la multicellularité, ça va plus loin que la fraternité. Et quand on se regarde là, en fait, on est tous reliés par une grande fonction. Et si ces fonctions, on les avait inconsciemment, automatiquement, on œuvrerait pour faire une transition vers un monde plus durable et avec plus de paix. Alors, c'est un texte d'Antoine de Saint-Exupéry, parce que pour que ce que je vous raconte là puisse avoir un sens profond, je cherchais un texte de Saint-Exupéry qui donne le sens du Petit Prince. En fait, il n'a jamais donné le sens du Petit Prince parce qu'il l'a publié le 6 avril 1943, il est tout de suite parti à la guerre et il n'a donné aucune interview. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant d'interprétation du Petit Prince. Et j'ai trouvé une lettre qu'il a écrite 2 mois avant sa mort qui s'appelle « La lettre à un Américain ». Dans ce texte, en fait, donc c'est un texte qu'il a lu après, il était basé en Corse, il faisait partie du corps qui préparait le débarquement et il voyait un soldat américain qui était très triste parce que il allait peut-être mourir pour la France et il se demandait si les Français allaient aider les Américains sur le front pacifique une fois qu'on avait gagné la guerre. Et il écrit cette lettre aux États-Unis, il dit « Voyez-vous, amis d'Amérique, il me semble que quelque chose de neuf est en formation sur notre planète. Les progrès matériels des temps modernes ont certes relié les hommes par une sorte de véritable système nerveux. Les liaisons sont innombrables, les communications sont instantanées. Nous sommes matériellement unis comme les cellules d'un même corps. Mais ce corps n'a point encore d'âme, cet organisme n'a pas encore conscience de soi. » Et la lettre continue, et en fait, il décrit exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que derrière les guerres, derrière ce sentiment de violence, en fait, ce sentiment de violence, et Teilhard de Chardin l'avait bien perçu aussi, en fait, c'est un processus de synthèse, et ce processus de synthèse fait qu'au départ, on avait des petites tribus de 3 ou 4 personnes qui sont devenues des tribus de 100 personnes, puis des tribus de 1000, puis d'un million. Aujourd'hui, on a des pays de 1,5 milliard, et que ce que l'on voit comme des guerres, ce que l'on voit comme la violence, en fait, ça prépare le niveau d'au-dessus et l'émergence d'une humanité unie au service de la biosphère. Mais le jour où on énoncera notre rôle vis-à-vis de la biosphère et dont on en aura conscience, eh ben, cette prophétie se réalisera. Et l'énergie en fait, d'association qui permet en fait, de passer au stade supérieur, en fait, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que des atomes se lient entre eux? C'est une énergie qui fait qu'ils donnent tout pour former une molécule et après, ils ne deviennent plus des atomes séparés. Pareil, quand vous passez de molécule à un être vivant, d'être monocellulaire à multicellulaire, ce qui unit les choses en soi pour créer une structure d'ordre supérieur, c'est le don infini de soi, c'est l'agapé pour le tout. Et pour avoir besoin, en fait, de créer ce collectif planétaire, on a besoin, en fait, que les humains ouvrent leur cœur. Et si cette énergie d'amour circule, l'humanité pourra passer à ça et donner à cette humanité qu'elle devienne une entité qui prenne soin de chacune des parties. Et cette énergie d'amour, c'est aussi ce qui manque dans le mouvement d'écologie aujourd'hui, qui reste très cérébral et parfois aussi très combatif envers ceux qui devraient intégrer. Et cette posture d'amour à l'infini est vraiment ce qui pourrait permettre d'accélérer cette transition. Et ce secret, il est donné dans Le Petit Prince. En réfléchissant à cette question, je me disais, ça serait intéressant de raconter comment on peut passer d'Homo sapiens à Homo bioceris. Et pour moi, j'ai le sentiment que derrière l'illusion de la violence qu'il y a dans le monde, cette énergie d'amour ne demande qu'à être activée et que Homo bioceris, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 100 ans, c'est quelque chose qui pourrait arriver en 3 ans. Et je me suis lancé le défi, en 3 ans, d'écrire 3 romans qui expliquent comment, en 3 ans, on peut arriver à passer du monde actuel, avec des divisions entre la Chine, les États-Unis, des réseaux sociaux, des politiques un peu fous, et comment on pourrait, à partir de cette énergie d'amour, arriver à cette civilisation d'Homo bioceris. Le premier tome de cette saga est sorti il y a un an, s'appelle La Petite Princesse. Il a été préfacé par l'héritier d'Antoine de Saint-Exupéry. Et la petite histoire, c'est que Antoine de Saint-Exupéry, on a retrouvé il y a 2 ans une lettre dans laquelle il a promis à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince qui devait s'appeler La Petite Princesse. On n'a jamais retrouvé le manuscrit. Et dans le livre, qui est un thriller, une petite fille recherche ce manuscrit dans lequel il y aurait les clés d'activation d'Homo Biosphéris. Si vous voulez suivre ces aventures, vous pouvez aller sur le site revolutionbleu.fr ou sur mon site personnel. Je vous remercie.